Bonjour à tous. Alors que vous vous rendez peut-être sur votre lieu de vacances, nous allons vous expliquer pourquoi les autoroutes sont si chères et pourquoi leurs concessionnaires lorgnent sur certaines portions de routes nationales. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Nous allons donc réécouter l'enquête que vous aviez réalisée le 30 mars dernier avec quelques éléments qui ont changé, vous allez le voir depuis. Et puis nous réentendrons Marie Maurice. Elle a publié un livre enquête sur l'industrie de la pornographie et son évolution. On y découvre un monde glauque et des pratiques qui relèvent parfois d'un quasi-esclavage.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bonjour les gars, vous voulez une petite soupe ?
Le péage de Lima sur la 6 est un des points de ralliement de la mobilisation. Ils étaient 600 samedi, ils ne sont plus qu'une poignée, une centaine, à tenir les positions. Chacun s'organise.
Voilà, c'est un extrait d'un reportage de France 3 sur des gilets jaunes qui bloquaient un péage à Lima il y a quelques mois près de Villefranche-sur-Saône. Cette scène, on l'a connue de nombreux samedis entre décembre et mars dernier et même encore plus récemment. Les autoroutes sont en effet devenues des cibles qui cristallisent de nombreuses critiques, qu'il s'agisse du prix des péages ou des dividendes versés par les sociétés concessionnaires. Alors à Secret d'Info, on a voulu regarder ce qu'il en est vraiment. Et pour commencer, eh bien, il faut effectivement faire un constat. Benoît Colomba, oui, les autoroutes, ce sont des affaires rentables.
Oui, le secteur autoroutier, c'est un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros par an, un bénéfice net de près de 3 milliards d'euros et des dividendes très importants, 1,7 milliard en 2017, 4,7 milliards en 2016, tandis que dans le même temps, les tarifs de péage ont augmenté de près de 20% en 10 ans.
Oui, mais alors c'est ça qui peut surprendre, Benoît, qu'on ait d'un côté une activité très rentable et puis de l'autre des tarifs qui, eux, continuent d'augmenter. C'est ça, en fait, qu'on a du mal à comprendre.
Alors en fait, pour comprendre, il faut remonter au début des années 2000. Le gouvernement Jospin et le ministre des Finances Laurent Fabius décident d'ouvrir au privé le capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, jusqu'ici entièrement détenues par l'État.
Ouais, donc en fait c'est une semi-privatisation.
Oui, mais l'État reste actionnaire majoritaire. Et ce dispositif, il reste en place sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin parce que l'État y trouve un intérêt. Le ministre des Transports, Gilles de Robien, propose même d'utiliser l'argent des péages pour financer l'aménagement du réseau routier mais aussi du ferroviaire et créer une agence de financement des infrastructures de transport. C'était le moment parfait pour le faire, se souvient l'ancien ministre.
On avait des autoroutes qui allaient produire des dividendes très importants dans les années 2005, 2006 et suivantes. Et donc en centaines de millions et ensuite en milliards, ça faisait des recettes nouvelles pour l'État et pourrait rentrer dans l'agence qui financerait maintenant les infrastructures. Ça me paraissait logique.
Ouais, ça peut paraître logique, sauf qu'à l'époque, eh bien, il va se heurter à toutes sortes de difficultés.
Ben oui, parce que le ministère des Finances est opposé à ce projet. Gilles de Robien doit donc batailler ferme pour mettre en place cette fameuse agence des infrastructures financée par l'argent des péages. Et il nous raconte pour la première fois comment les choses se sont vraiment passées.
À Bercy, chaque ministre qui me reçoit me dit qu'il faut vendre les autoroutes, ça fera une recette pour l'État, ça baissera la dette de l'État, ça baissera le déficit de l'État. Et moi, j'avais fait faire par une grande banque de la place une étude extrêmement fine, extrêmement poussée, qui disait que les autoroutes étaient une manne pour l'État. Mon argument de défense était tellement solide que le ministre Francis Maire en a convenu et il y a eu un arbitrage à Matignon sous l'autorité de Jean-Pierre Raffarin qui a convenu qu'il fallait garder les autoroutes.
Ouais, donc à l'époque, les autoroutes restent publiques, sauf qu'en 2005, tout va changer.
Oui, Dominique de Villepin devient Premier ministre et avec son ministre des Finances, Thierry Breton, il décide de privatiser. L'État vend ses participations dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes aux groupes Vinci, Eiffage et Abertis, avec une justification que nous rappelle Gilles Carrez. Il était alors rapporteur UMP du budget, opposé à cette privatisation.
L'argument, c'était de dire que ça servira au désendettement. L'État s'endettait, à cette époque, déjà à un taux d'intérêt qui était de l'ordre de 4 ou 5%. Or, les autoroutes rapportaient beaucoup plus que 4 ou 5% à l'État. Je n'ai pas compris cette décision. Dès lors, je me suis dit, mais si on doit vendre ces autoroutes, autant qu'on les vende au prix maximum, parce qu'on va vendre un bijou de famille qui a une valeur énorme, on n'a pas le droit de le brader.
Ouais, on n'a pas le droit de le brader, dit Gilles Carrez. Et alors Benoît, on les a bien vendus finalement, ces bijoux de famille?
Alors la vente s'est faite à 14 milliards 800 millions d'euros. Dominique de Villepin estime, lui, que c'était un bon prix pour l'État. Écoutez l'ancien Premier ministre, c'était le 10 octobre 2014 sur France Inter.
Il y a un rapport parlementaire en 2005, au moment où nous avons décidé d'engager ce processus, qui estimait le montant à payer à un peu plus de 11 milliards, entre 11 milliards et 12 milliards. Et à combien avons-nous finalement cédé? À 14 milliards 8. Donc c'était une bonne affaire.
C'était une bonne affaire. C'était vraiment une bonne affaire, Benoît?
Bien, on peut sérieusement en douter. Écoutez à nouveau le député Gilles Carrez. À l'époque, comme rapporteur du budget, il estime ce prix de 14 milliards 8 sous-évalué, mais il n'est pas entendu.
Le gouvernement disait, mais on en est obligé de... Parce que vous savez, les autoroutes, c'est très risqué. Qui nous dit que le trafic va continuer d'augmenter? Et moi, je disais, non, s'il y a un investissement dont on est sûr que chaque année, ça tombe, c'est bien les autoroutes.
Alors je précise que ni Dominique de Villepin ni Thierry Breton n'ont souhaité commenter cette privatisation. Du côté des sociétés d'autoroutes, on estime que la facture réelle n'est pas de 14,8 milliards, mais d'au moins 22,5 milliards d'euros, parce que selon elle, il faut y ajouter le rachat des parts des sociétés d'autoroutes qui appartenaient à l'État depuis 2002.
Ah oui, donc elle considère qu'elles ont payé plus cher que ce qui a été annoncé. Bon, maintenant, cette agence dont vous nous parliez tout à l'heure, Benoît, qui est censée financer les infrastructures routières, si elle n'a plus la manne des péages, puisqu'ils ont été privatisés, elle vit de quoi aujourd'hui alors?
Eh bien, après la privatisation, on lui a d'abord versé un chèque de 4 milliards d'euros. Mais rapidement, ça ne suffit plus. Il faut trouver une autre source de financement. Et c'est comme ça que l'écotaxe arrive sur la table. Vous vous souvenez, cette taxe sur les poids lourds qui devait être mise en place en 2014.
Ouais. Cette fameuse taxe qui n'a jamais vu le jour.
Bah oui, alors qu'elle devait rapporter 1 milliard d'euros par an. Et c'est bien là le problème, rappelle l'actuel président de l'Agence des infrastructures de transport de France, Christophe Béchu.
Au moment où le dispositif est censé entrer en vigueur, on a les bonnets rouges et on a l'arrêt de l'écotaxe, avec un raffinement dans tout ça, puisque non seulement l'agence n'a jamais touché les recettes d'une écotaxe qu'on a supprimée, mais on lui a demandé de payer la facture du renoncement avec, en 2018, 326 millions d'euros qui ont été payés par l'agence à Ecomove pour solder la rupture abusive d'un contrat avec eux.
Donc l'agence est en difficulté et par conséquent, l'État se dit qu'il serait peut-être pas inutile de lui donner un coup de pouce et que pour ça, on pourrait demander aux autoroutes de mettre la main au portefeuille.
Ah oui, le débat est d'autant plus vif que dans le même temps, il y a deux rapports très critiques de la Cour des comptes et de l'autorité de la concurrence qui parlent d'une rente autoroutière. L'État doit absolument renégocier les contrats de concession, affirme le président de l'autorité de la concurrence, Bruno Lasserre, le 17 septembre 2014, devant la commission des finances. Nous avons fait lire son témoignage.
L'État a une responsabilité historique. S'il prolonge les concessions sans rebattre les cartes ni reprendre la main dans les négociations, il perd le pouvoir pour très longtemps. Le risque serait alors que les sociétés d'autoroutes invoquent dans plusieurs années une crise du BTP pour demander une nouvelle prolongation, de sorte que ces concessions ne prendront jamais fin et que l'État ne récupérera pas l'infrastructure qu'il a concédée.
Autrement dit, si l'État n'impose pas ses conditions, c'est ça qu'on entend, hein, il risque de perdre définitivement les autoroutes. Alors, on en est là à ce moment-là, mais l'affaire va ensuite prendre un tour plus politique.
Oui, parce que fin 2014, 152 députés socialistes réclament au Premier ministre Manuel Valls le rachat des concessions d'autoroutes par l'État. Un groupe de travail sur les autoroutes est mis en place, avec deux représentants de l'État qui sont principalement chargés de mener les discussions. Il y a Elisabeth Borne, l'actuelle ministre des Transports, qui était à l'époque directrice de cabinet de la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal. Et puis Alexis Kohler, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, qui est alors directeur de cabinet du ministre de l'Économie, Emmanuel Macron.
Des personnalités qu'on connaît bien désormais. Et alors, il fait quoi concrètement ce groupe de travail?
Eh bien, officiellement, il étudie toutes les options possibles, à commencer par la résiliation des contrats. Mais Jean-Paul Chanteguet, qui est alors député socialiste, se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Il s'aperçoit que, pendant que ce groupe discute, eh bien, de véritables négociations sur les contrats se déroulent parallèlement, directement avec les sociétés d'autoroutes, où il n'est plus du tout question de résilier les contrats, et c'est pour ça qu'il démissionne.
L'objectif, c'était de nous faire accepter les termes du protocole d'accord que l'on négociait dans notre dos, de nous conduire à cautionner ce protocole d'accord avec les sociétés d'autoroutes. C'était ça l'objectif. Les dés étaient pipés.
Les dés étaient pipés, autrement dit, il pense, lui, qu'il servait de caution. Et qu'est-ce qu'on répond à ça du côté des représentants de l'État?
Alexis Kohler n'a pas répondu à ma demande d'interview. Quant à Elisabeth Borne, son cabinet au ministère des Transports explique que le bilan de cet accord est, je cite, « positif » parce qu'il évite des litiges contre l'État et rééquilibre les relations avec les sociétés d'autoroutes.
Bon, quoi qu'il en soit, on a donc, d'un côté, on l'a compris, un groupe de travail et des négociations de l'autre avec les sociétés d'autoroutes. Et pendant que tout ça se déroule donc en coulisses, politiquement, on essaie de rassurer les automobilistes. On leur envoie des signaux.
Oui, en décembre 2014, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, annonce publiquement un gel des tarifs des péages. L'ancienne ministre n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais écoutez son collègue, le secrétaire d'État chargé des transports à l'époque, Alain Vidalis. Il raconte comment il a vécu l'épisode.
Très mal. C'est vrai que j'aurais dû me méfier parce qu'elle avait déjà annoncé un gel des tarifs de la SNCF alors qu'elle avait signé l'arrêté d'augmentation. Et là, elle annonce, Ségolène Royal, un gel des tarifs autoroutiers alors qu'il y a un dispositif contractuel. Enfin, je sais bien que ça fait toujours plaisir aux gens qui écoutent. Moi aussi, j'aimerais bien annoncer des gels ou des diminutions de tarifs. Mais malheureusement, la réalité, la responsabilité politique, c'est que on sait très bien qu'on peut pas le faire. Et donc, elle annonce ce gel. Immédiatement, les sociétés d'autoroute font des recours. Et là, va s'engager une négociation qui va rester en partie secrète.
Ouais, cette fameuse négociation avec les sociétés concessionnaires pour réviser les contrats dont on parlait. Et alors, Benoît, elle débouche sur quoi, cette négociation?
Eh bien, sur un protocole d'accord signé le 9 avril 2015 par Ségolène Royal, Emmanuel Macron et les représentants des sociétés d'autoroutes. Mais pas par le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. Et il nous explique aujourd'hui pourquoi.
Pour la signature du protocole, on a bien voulu me convoquer. Et je refuse. N'ayant pas été invité par M. Kohler et Mme Borne à l'ensemble des négociations, ni mon cabinet, je ne vois pas pourquoi je viendrais signer un contenu que je n'ai ni expertisé, ni étudié, ni validé.
Il y avait une bonne ambiance en coulisses apparemment à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il y a qui pose autant problème en fait dans ce protocole d'accord?
Eh bien le problème c'est que dans un premier temps, on ne le sait pas parce que le secret est bien gardé, comme le constate à l'époque le sénateur centriste Hervé Maurey, spécialiste du sujet.
J'ai écrit une première fois à Manuel Valls pour lui demander ses avenants. Je n'ai pas eu de réponse et j'ai fini par interpeller Emmanuel Macron lors d'un débat au Sénat au mois de juin 2015. Emmanuel Macron a indiqué qu'une partie de ses avenants était couverte par le secret des affaires et qu'il allait regarder quelle partie de ses avenants pourrait nous être communiquée.
Et je précise qu'à l'époque, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, explique qu'une partie de ses accords est couverte par une clause de confidentialité à la demande, dit-il, des sociétés d'autoroutes, ce que démentent aujourd'hui les sociétés d'autoroutes. Quant à Manuel Valls, il n'a pas donné suite à mes demandes d'interview.
Oui, donc si on se résume, dans un premier temps, on se réfugie derrière ce secret. Sauf que Benoît, bien le 18 mars dernier, c'est donc très récent, ce secret, il a volé en éclats.
Oui, suite à une longue bataille procédurale menée par l'ancien élu écologiste grenoblois, Raymond Avrillier, il a saisi l'administration pour obtenir la communication officielle de ce protocole d'accord. Et le Conseil d'État lui a effectivement donné raison. Cela dit, cet accord, il avait déjà été dévoilé en janvier dernier par le site Mediapart. Nous le sommes également procuré et il est consultable sur notre site internet.
Secret d'info sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a vu comment l'État renégociait les contrats des concessions passées avec les autoroutes, bah voyons ce qu'il y a dans ces fameux contrats, Benoît Colomba. Qu'est-ce qui justifie qu'on les ait ainsi entourés du plus grand secret ?
Alors en résumé, ce protocole d'accord prévoit plusieurs choses. Un allongement de la durée des concessions contre la promesse d'un investissement de 3 milliards 200 millions.
Bon, jusque-là, ça se comprend.
Une augmentation des tarifs de péage jusqu'en 2023.
Ah oui, quand même. Hein.
Mais on trouve aussi une clause assez surprenante de stabilité fiscale.
Une clause de stabilité fiscale, c'est-à-dire ?
C'est une clause qui oblige l'État à accorder une compensation aux sociétés d'autoroutes automatiquement en cas de nouvelles taxes ou de nouvel impôt.
Ah oui, autrement dit, on devrait leur rendre d'une main tout ce qu'on pourrait leur prendre de l'autre.
En quelque sorte, alors cette clause, elle existait en fait déjà avant, mais selon un avis du Conseil d'État de février 2015 que nous nous sommes procurés, son application très large pouvait être considérée comme excessive et anormale, et c'est ce qui pose question à l'ancien député Jean-Paul Chanteguet.
Ça veut dire que si l'État demain décidait d'augmenter une taxe, une redevance ou décider de mettre en place une nouvelle taxe sur les autoroutes, eh bien, l'État est obligé d'accepter soit une augmentation des péages, soit un allongement des durées de concession, donc une contrepartie. Ce qui veut dire que l'État a accepté de mettre en place, en fait, d'une certaine manière, une forme de régime dérogatoire.
On aurait octroyé une sorte de privilège, dit-il, aux sociétés d'autoroutes. Et elles en disent quoi de cette fiscalité neutre dont elles bénéficient ?
Eh bien, elles expliquent qu'il s'agit là d'une clause tout à fait logique dans ce type de contrat, comme l'explique le président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, Arnaud Harry.
Ce qui est normal, c'est que l'État, qui est à la fois juge et partie, ne puisse pas, de manière unilatérale, imposer de nouvelles taxes et redevances spécifiques aux sociétés d'autoroutes. C'est normal parce que c'est lui qui fixe la règle du jeu et c'est lui qui est par ailleurs propriétaire des autoroutes et donc concédant. Les sociétés d'autoroutes, le droit dit qu'il doit les compenser.
Et les compenser, ça peut vouloir dire par exemple autoriser une augmentation des péages ?
Alors oui, sauf que cette vision des choses, elle est aujourd'hui contestée au plan juridique. Vous vous souvenez de l'ancien élu grenoblois Raymond Avrillier ? Eh bien, il va saisir à nouveau le Conseil d'État dans les jours qui viennent, car il estime que les deux ministres, Ségolène Royal et Emmanuel Macron, qui ont signé ce fameux protocole d'accord, ces ministres, selon lui, n'étaient pas habilités à valider une décision d'ordre fiscal.
Ce protocole d'accord est irrégulier. Il n'y a ni la signature du ministre des Finances, ni la signature du Premier ministre. Le Conseil d'État sera saisi sur ce protocole pour l'incompétence des deux ministres à s'engager sur des dispositions qui ne relèvent pas de leur mission qui ont été prévues par les textes législatifs et réglementaires.
Ouais, donc on est reparti dans une guerre juridique qui risque de durer longtemps. Maintenant, en attendant, on perçoit déjà les premiers effets de cet accord, Benoît, puisque les tarifs des péages, eux, ils ont recommencé à augmenter.
Oui, des hausses qui sont censées compenser le gel des tarifs annoncé par Ségolène Royal, comme l'explique le directeur de l'Observatoire des experts de la mobilité, Laurent Eke.
Ce gel des tarifs de 2015 fait l'objet d'une compensation puisque l'usager va payer ce rattrapage à partir de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ça veut dire que ce gel sera récupéré par les sociétés. L'organisme régulateur qui est l'ARAFER a d'ailleurs annoncé que le fait de ne pas avoir augmenté mais de répercuter plus tard ce manque à gagner coûtait 500 millions de plus à l'usager.
Ah oui, donc en clair, ce gel des tarifs, c'est nous qui allons le payer. Mais il n'y aurait pas moyen de faire autrement ?
Vous voulez dire que l'État reprenne la main ? Alors, sur le papier, oui, c'est possible. Il existe bien un article dans les contrats de concession. L'article 38, qui permet à l'État de dénoncer ces contrats au nom de l'intérêt général. Écoutez à nouveau Laurent Eke.
C'est contractuellement possible de racheter les contrats et de mettre en place un nouveau système. Simplement, si l'État fait jouer cette clause, il va devoir indemniser les détenteurs des contrats. Sur quelle base ? Eh bien, c'est là toute la difficulté d'estimer, mais on estime entre peut-être 35 à 40 milliards le prix du rachat de ces contrats.
Ah oui, au moins 40 milliards pour récupérer les autoroutes, effectivement, c'est pas rien.
Oui, mais même si la facture montait jusqu'à 50 milliards, certains estiment que ça peut valoir le coup. C'est le cas du chercheur et enseignant Christophe Rameau, membre des économistes atterrés. Selon lui, en empruntant sur les marchés financiers avec des taux extrêmement bas, résilier les contrats pour ensuite renationaliser, c'est tout à fait possible.
La France a tout à fait les moyens, si elle le souhaite, d'augmenter sa dette de 50 milliards pour cette mission d'intérêt général, en sachant que cette dette, elle sera largement remboursée dans les années qui suivent grâce aux recettes tirées de l'exploitation de ces sociétés d'autoroutes. Il n'y a absolument aucun problème pour emprunter 50 milliards en plus.
Alors je précise que d'autres plaident pour un système intermédiaire dans lequel l'État reprendrait la maîtrise des péages tout en confiant l'exploitation du réseau au privé.
Donc il existerait toutes sortes d'options. Maintenant, pour autant, Benoît, est-ce qu'une reprise en main des autoroutes par l'État, c'est aujourd'hui envisagé?
Alors clairement non. L'actuelle ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a été directrice des concessions chez Eiffage en 2007-2008, la ministre l'a formellement écartée. Écoutez-la répondre aux questions d'Europe 1 le 11 janvier dernier.
Vous envisageriez de renationaliser les autoroutes?
Écoutez, c'est 50 milliards, donc je pense que, vous voyez...
Il faut trouver 50 milliards?
C'est 50 milliards d'euros si on voulait renationaliser les sociétés d'autoroutes, donc... Vous imaginez qu'on n'a pas 50 milliards, mais les sociétés d'autoroutes doivent entendre et effectivement faire un effort pour le pouvoir d'achat des Français.
Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors, après avoir évoqué les contrats renégociés par l'État avec les sociétés autoroutières, parlons maintenant des ambitions de ces concessionnaires, Benoît Colombat, parce qu'il semble bien qu'ils aient l'intention de récupérer de nouvelles portions d'autoroutes.
Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'il reste 2600 km d'autoroutes non concédées. Et Lionel Lelier, qui a travaillé plus de 15 ans dans le secteur, confirme qu'il y a quelques années, il en entendait déjà parler.
Il y avait une volonté de travailler sur des extensions de réseau, ce qu'on appelait la politique des petits bouts, d'avoir du réseau à gérer en plus, quoi. Il y avait deux stratégies, des sections nouvelles, complètement nouvelles, des gros morceaux, et une stratégie de développement local où des petits morceaux de réseau non concédé pouvaient être adossés au réseau concédé par soit une extension de la durée des concessions, soit par un péage complémentaire. C'était clairement dans la tête des sociétés d'autoroutes.
Dans leur tête ou dans leur collimateur d'ailleurs. Et Benoît, il y a peut-être même autre chose d'ailleurs dans cette tête. Il semble bien que ces sociétés lorgnent aussi sur ce qu'on appelle encore, même de manière impropre parfois, les routes nationales.
Oui, étant donné que faute de crédit, l'état du réseau non concédé se dégrade, les sociétés d'autoroutes ont également un œil sur le réseau routier national qui représente quand même près de 10 000 km. C'est ce qu'on comprend dans une note interne de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes datée du 17 avril 2014 que nous nous sommes procurés. Nous en avons fait lire un extrait.
Le modèle des concessions est vertueux. Il semble pertinent aujourd'hui de s'appuyer sur ce modèle pour continuer à développer et moderniser les infrastructures routières. Le transfert de tout ou partie du réseau routier national est de nature à provoquer un choc budgétaire très significatif, soulageant le budget de l'État et pérennisant les capacités d'entretien du réseau.
Ah oui, autrement dit, on va vous gérer les routes et ça va vous faire économiser de l'argent. Et les sociétés d'autoroutes, elles confirment être intéressées par les routes dites nationales?
Eh bien, j'ai interrogé là-dessus le président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, Arnaud Harry. Il confirme que le réseau national l'intéresse, mais uniquement les portions qui pourraient à terme être transformées en autoroutes.
Chaque fois que l'État décide et décidera d'aménager son réseau national de routes nationales, elle transformera en autoroute, les sociétés d'autoroute répondront présent. Nous avons l'exemple de RCEA, donc la route Centre-Europe-Atlantique entre Mâcon et Limoges-Poitiers. Vous avez là un exemple dans lequel l'État a décidé de transformer 100 km de route nationale en autoroute et les sociétés d'autoroute répondent à l'appel d'offres pour moderniser, parce que chaque fois que c'est nécessaire, nous serons présents.
Nous serons présents, et l'État, lui, qu'est-ce qu'il en dit, Benoît? Est-ce que concéder une partie des routes, c'est vraiment à l'étude?
Eh bien, apparemment, oui. Selon la publication La Lettre A, des amendements ont été récemment déposés par deux députés La République En Marche lors du débat sur la loi d'orientation des mobilités. Des amendements qui ouvrent la voie à la cession par l'État de portions de routes nationales aux sociétés d'autoroutes. Ce qui n'étonne pas l'ancien secrétaire d'État aux transports, Alain Vidali. Il se souvient que déjà, lorsqu'il était au ministère, le sujet était dans les tuyaux.
Moi, j'ai vu arriver, évidemment, un certain nombre de notes qui sont les mêmes
que probablement aujourd'hui, la haute administration, les mêmes personnages de Bercy, envoient au ministre, disant qu'on n'avait plus les moyens dans le budget de l'État d'entretenir le réseau routier national, qu'il était dans un état mauvais, ce qui est vrai. Il y avait déjà un schéma qui existait.
Donc on préconisait quoi ?
On préconisait de privatiser, de confier ça par appel, enfin, de recommencer au fond ce qu'on avait fait autrefois pour les autoroutes, de le faire pour les routes nationales.
Et ce débat sur les concessions d'autoroutes, il revient dans l'actualité avec la privatisation très contestée d'Aéroports de Paris, qui intéresse notamment Vinci. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à un référendum d'initiative partagée contre cette privatisation. Pour rappel, Aéroports de Paris rapporte chaque année 170 millions d'euros de dividendes à l'État.
Bien, merci Benoît Colomba. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter, où vous retrouverez d'ailleurs de nombreux documents très intéressants. Je vous invite à les consulter. Vous pouvez également nous y laisser au passage vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Mais restez avec nous, on va changer complètement d'univers. Dans quelques instants, on va voir que l'industrie de la pornographie s'est considérablement transformée ces dernières années.
To live with melody and happiness.
C'est doux, c'est suave, c'était Picture Picture, extrait du dernier album de la néo-zélandaise Aldous Harding.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Marie Maurice, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre-enquête sur le monde de la pornographie, particulièrement intéressant au moment où le gouvernement réfléchit à une régulation de la pornographie sur Internet. Et c'est vrai que ces dernières années, enfin ces 15 dernières années en gros, Internet a vu l'émergence d'un nouveau modèle économique dont le site YouPorn est peut-être d'ailleurs l'illustration la plus parlante. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement en quoi ça consiste le modèle de YouPorn ?
Alors, en gros, YouPorn, c'est un site internet qui aspire des tas et des tas de vidéos. Quand vous êtes devant, c'est comme au supermarché. Vous voyez tout un tas de choses qui défilent sous vos yeux et c'est entièrement gratuit. Et donc, ça donne accès à des extraits de films X d'il y a 20 ans, des extraits de films X plus récents, des vidéos volées de personnes qui font des Skype, qui discutent et qui ont des rapports un peu sexuels via la caméra puis qui mettent ça sur le site. Donc, tout est classé par catégorie, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est entièrement gratuit. Et pourquoi c'est gratuit ? Parce qu'en fait, YouPorn, c'est une énorme plateforme publicitaire, si on veut. Le but de tous les gens qui mettent gratuitement leurs vidéos sur YouPorn, c'est que grâce à YouPorn, on découvre leur travail et qu'on aille ensuite acheter leurs vidéos plus complètes, plus longues sur leur site. Donc c'est comme une sorte de affiche publicitaire géante, finalement. C'est comme ça que ça fonctionne.
Et puis, il y a une autre particularité, c'est que YouPorn affiche des fenêtres qui permettent donc d'accéder à d'autres sites. Et si un site récupère un public qui est passé par YouPorn, il doit lui reverser une partie de ses revenus.
C'est ça, c'est un modèle économique qui est très répandu dans tous les sites internet et pas seulement dans le X, hein, ça s'appelle l'affiliation. Donc si moi je fais des vidéos X et je les vends sur mon site, en général c'est assez cher, c'est 15€, 30€ la vidéo. Si quelqu'un arrive sur mon site et achète une vidéo en étant passé par YouPorn, je dois reverser la moitié de mes revenus à YouPorn. Donc c'est vraiment des tarifs qui sont assez exorbitants et c'est comme ça que le site fait la majorité de ses revenus finalement.
Alors on peut citer quelques autres noms de ce nouveau monde du porno, MindGeek, X-Hamster, X-Video, etc. Et ce que vous pointez dans votre livre, c'est que ces sociétés ont radicalisé le X, c'est-à-dire que les scènes sont de plus en plus brutales.
Effectivement, si vous allez sur YouPorn, vous allez assez rapidement voir, sans trop les chercher, des vidéos où on force des femmes à faire des fellations très profondes. La sodomie est partout et sur toutes les vidéos est effectuée de manière très brutale. Il y a des vidéos de viol, et sans parler des autres, je ne souhaite pas décrire à l'antenne. Donc c'est vrai qu'on a affaire en tant que consommateur à des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer finalement. Et ça s'explique parce que le secteur est en détresse, il y a une crise très forte et du coup pour se démarquer c'est un peu la course à l'extrême.
Ouais. Et ces sociétés dont on vient de parler, elles s'abritent aussi parfois derrière une opacité financière qui rend toute enquête policière pour le coup sur l'origine des finances impossible.
Ces personnes ont fait ce qui est très fréquent dans les grandes entreprises qui ont vocation à faire des affaires dans le monde entier, c'est-à-dire ils ont placé leur siège social au Luxembourg pour économiser des impôts, leur siège opérationnel est à Montréal, en tout cas je parle de l'entreprise qui possède YouPorn. Et donc fiscalement cette entreprise, on ne sait pas trop où elle se situe ni ce qu'elle paie, c'est absolument impossible de le savoir puisqu'elle n'est pas cotée en bourse, il n'y a aucune information qui circule et elle-même ne donne aucun chiffre. Il n'y a pas d'enquête officielle sur cette thématique-là. YouPorn est une entreprise qui fait des vidéos avec des actrices polonaises destinées à un public majoritairement d'Américains et d'Européens. Tout ça est tellement disséminé que c'est impossible d'y voir très clair sur sa manière de faire des affaires, quoi.
Bien, en attendant, pendant que ce modèle prospère donc sur Internet, ou en tout cas squatte l'Internet, l'ancien modèle, lui qui était basé historiquement plutôt en Californie, à travers ce qu'on appelle la Porn Valley, lui est en crise, en chute libre, il y a de moins en moins de tournages là-bas.
Dans la Porn Valley, typiquement, une actrice avant gagnait 1 000 $ par jour de tournage pour un film X. Aujourd'hui, ces tarifs sont en baisse, donc les producteurs vont lui proposer parfois la moitié pour une journée de tournage. Donc les tarifs ont énormément diminué pour les actrices et pour les acteurs également. Et ce qui est le signe que l'industrie va mal. Donc les tournages sont moins longs, ont beaucoup moins de budget. Il n'y a plus de tournage dans les belles villas d'avant. Hein. C'est produit à la chaîne. Quand vous faites une journée de tournage, vous faites aussi toutes les photos, des vidéos pour les réseaux sociaux. Ça va très très vite et vous êtes de moins en moins bien payé. Donc c'est une industrie qui va mal. Les gens qui payaient avant pour des vidéos, ben aujourd'hui ils les voient gratuitement sur Internet. Donc c'est très difficile pour ces géants du X d'avoir une rentabilité qu'ils ont toujours eue en fait.
Et le résultat, c'est que le marché se déplace, c'est-à-dire que la nouvelle Porn Valley, mais du low cost cette fois-ci, elle est à Budapest en Hongrie.
Oui, elle est à Budapest et à Prague aussi. Budapest est devenue la capitale du porno low cost. Il y a beaucoup d'Américains qui se sont délocalisés là-bas parce que tout simplement la main d'œuvre là-bas est très peu chère. En étant allé sur place, j'avais la sensation d'avoir affaire à une sorte de traite de femmes. Les femmes, les jeunes filles, très jeunes filles, parfois même mineures, qui ont des rapports sexuels devant une caméra, parfois même pour la première fois de leur vie. Parfois, c'est des tout premiers rapports. Les vierges sont très prisées sur ce marché. Elles sont payées quelques centaines d'euros. Et puis après, l'agence prend une énorme part et le producteur prend encore plus. Et donc, effectivement, les moins bien loties, ce sont les actrices, quoi. Ça, c'est sûr.
Ou alors, puisque vous parlez de la misère, parce que c'est ça qu'il y a derrière aussi, c'est l'exploitation de la misère. Il y a aussi un nouveau modèle qui est en train d'émerger, enfin d'exploser, c'est ce qu'on appelle les cam girls. C'est un show sexuel privé, en fait, via une webcam. Là aussi, la plupart des femmes qui se livrent à cette activité sont en Roumanie ou en Colombie.
C'est quelque chose que j'ai découvert qui m'a beaucoup surprise. Cali est l'une des capitales mondiales des cam girls. Celle que j'ai interviewée par le biais de la caméra était toute là-bas. Ce sont des espèces de fermes à filles, des immenses immeubles où vous avez des petites chambres de quelques mètres carrés où les filles font leur show privé. Elles louent, là encore, elles payent assez cher pour être là. Elles louent cette chambre et leur place sur les sites de cam girls et en échange, elles ont des clients qui viennent les voir virtuellement. Et la Roumanie aussi est l'autre grande capitale de ce business, qui est un business qui est né de l'échec des acteurs du X traditionnels, des grands groupes, qui se sont dit, alors, si on fait des films X, personne ne les achète et puis on peut se les faire piquer et ils seront le lendemain partout sur Internet gratuitement. Donc, il faut trouver une autre manière de faire du X qui n'est pas piratable et qui est un service supplémentaire pour le client. Et cette solution, ça a été les cam girls, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un film pour plein de consommateurs, vous avez un film rien que pour vous, qui est fait en direct, un show rien que pour un client. Donc il y a un côté un peu privé, ça coûte extrêmement cher la minute. Donc
2,60 €, hein, vous dites.
Ouais, c'est très rentable pour les groupes qui font ça. Et d'ailleurs, beaucoup de grands groupes traditionnels actifs dans la pornographie ont développé un département de cam girl. Et beaucoup d'actrices porno de pornographie font des cam pour compléter leur fin de mois. Donc elles sont moins payées sur des tournages de films, mais elles sont mieux payées si elles font des cam.
Alors, vous expliquez aussi qu'il y a une évolution des comportements, et on terminera par ça. C'est qu'avant, il y avait des acteurs, enfin Rocco Siffredi n'avait pas besoin de produits, j'imagine, quand il était jeune. En revanche, maintenant, on prend facilement du Viagra, notamment, mais il y a d'autres types de médicaments dont certains sont dangereux qu'on utilise sur les tournages.
Moi, j'ai assisté à des tournages. C'est vrai que ça ressemble quand même à une pratique sportive. Hein. C'est très physique, c'est très long, très rébarbatif. Donc, un acteur doit vraiment tenir le coup. Alors moi, on m'a parlé de traitements en pharmacie. Ce sont des piqûres qui sont en fait à la base destinées aux paraplégiques pour obtenir une érection de manière chimique pour leur vie privée. Et en fait, ces traitements circulent au sein de la communauté des acteurs porno amateurs. Et ils se le mettent dans l'aine et ça provoque une érection très ferme et surtout très longue qui leur permet de tenir le coup sur les tournages. Et d'ailleurs, rares sont ceux qui y arrivent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'acteurs que d'actrices porno, notamment parce qu'il y a peu d'hommes qui arrivent à cette performance physique, en fait.
Ouais, sauf que ce médicament dont vous parlez, il peut être dangereux.
c'est très dangereux, ça peut boucher les vaisseaux, ça peut arriver à l'inverse de ce que les gens recherchent, c'est-à-dire avoir une infection des membres. Et puis donc du coup, c'est très dangereux, évidemment, si c'est fait trop souvent et dans des conditions sanitaires et d'hygiène compliquées, comme c'est souvent le cas sur les tournages.
Bien, merci Marie-Maurice, merci de toutes ces explications sur ce milieu assez glauque, hein, pour le résumer. Je rappelle en tout cas pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette conversation que votre livre s'appelle Planète Porn et qu'il est édité chez Stock. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Dibert et la technique assurée par Pauline Laverdure et Clément Berman. Dans quelques instants, regardez voir avec Brigitte Patient. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à dimanche prochain.